There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, j'ai l'immense plaisir et honneur de recevoir Edgar Gros-Piron. Edgar est, entre autres bien entendu, champion olympique, triple champion du monde de ski boss et depuis 20 ans, il a fait plus de 1000 conférences. Il est coach, il conseille les entreprises et surtout, il a un regard très très particulier sur le métier de manager puisqu'il fait le parallèle entre le management et le monde du sport. Dans cet épisode, nous parlerons de bien-être, de management bien entendu, de gestion du stress, de plaisir et de beaucoup beaucoup d'autres choses. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Edgar.
Bonjour Gaël.
Alors, je vais, comme d'habitude, commencer par une présentation, même si on ne vous présente plus, parce que en préparant cette interview, je vous l'ai avoué, je suis un peu dans une fanatitude, mais Edgar Gros-Piron, je vais quand même vous présenter très rapidement. Vous êtes un champion de ski acrobatique français spécialisé dans l'épreuve des bosses. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas, tapez Edgar Gros-Piron sur YouTube, vous verrez, c'est quand même assez impressionnant. Et vous avez été notamment le premier champion olympique de la discipline en 92 à Albertville, champion du monde à 3 reprises, vainqueur à 4 reprises du classement général de la Coupe du Monde des Bosses. Et vous mettez un terme à votre carrière sportive en 1995, en toute beauté, puisque c'est avec un titre de champion du monde chez vous, à La Clusaz. Pour votre reconversion, vous décidez de devenir consultant en management en mettant en avant les ponts qui existent entre le monde du sport et le management. Et depuis 2001, le chiffre m'a impressionné tout de même, vous avez donné plus de 1000 conférences et vous avez en parallèle beaucoup d'activités en tant que commentateur TV, dans le mouvement olympique, dans le mouvement associatif pour soutenir les jeunes sportifs, et vous êtes également coach certifié, entrepreneur et business angel. Bref, vous êtes un hyperactif. Si j'ai souhaité vous interviewer, c'est pour avoir votre sentiment sur le bien-être au travail, puisque c'est la thématique de ce podcast en l'occurrence, mais le bien-être, d'abord le vôtre, en comparant le monde du sport que vous avez connu de très belle manière et celui du management. Et ma première question est très simple. J'imagine que pour atteindre le niveau que vous avez atteint en ski acrobatique, les sacrifices ont été très nombreux, l'entraînement acharné. Est-ce que la notion de bien-être au travail dans votre période sportive, est-ce que ça avait sa place ou pas du tout, ou au contraire, c'était l'école de la souffrance?
Ah non, non, elle était essentielle. Et si j'avais souffert, j'y serais pas arrivé. Je vous le dis aussi net. Parce que pour moi, j'ai pas juste gagné un championnat du monde ou une fois les Jeux Olympiques. Je suis arrivé en équipe de France à l'âge de 16 ans. À 17, je faisais mon premier podium en Coupe du Monde. À 18, première médaille aux Jeux Olympiques à Calgary, médaille en chocolat parce qu'on était en démonstration. Et jusqu'à l'âge de 25 ans, je suis resté au sommet, en fait, sur le podium du classement général de la Coupe du Monde, aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, sauf une année, l'année après les Jeux, où je me suis blessé et où je n'ai pas pu défendre mes titres, du coup. Mais sinon, donc si j'avais souffert, je n'aurais jamais pu tenir aussi longtemps, parce que souffrir, ça veut dire que vous rentrez de l'entraînement vous terminez une saison avec une énergie mais atone et que vous êtes dégoûté finalement de ce que vous avez fait et que le résultat, même s'il est bon, il suffit pas à vous redonner de l'énergie. Donc moi, pour moi, la souffrance au travail, c'est exclu. Je l'exclus tout simplement.
Mais en fait, c'est la notion de dépassement de soi à ce moment-là qui remplace la souffrance qu'on peut imaginer à l'entraînement, c'est de savoir se dépasser.
Non, en fait, c'est le plaisir qui était pour moi hyper important, c'est-à-dire que je ne prenais pas spécialement de plaisir à skier dans les bosses, mais je prenais beaucoup de plaisir à skier d'une manière générale, ce qui veut dire que mon métier, mon cœur de métier, c'était le ski de boss, et là, j'y trouvais une certaine motivation, tandis que ma passion, c'était le ski, et là, j'y prenais un certain plaisir, et il fallait bien conjuguer la passion pour l'univers, l'univers, le domaine, c'est-à-dire le ski, et le métier, c'est-à-dire la motivation que je pouvais avoir dans mon cœur de métier, c'est-à-dire skier dans les bosses, et cette motivation qui devait me permettre d'atteindre des objectifs. Hein, elle était liée d'ailleurs aux objectifs et aux ambitions que je pouvais avoir et à tout un tas d'autres choses, mais voilà, il y avait vraiment une conjonction de la passion et du plaisir qui était essentielle. Et vous voyez, elle ne se situe pas sur le même plan. La passion, c'est un domaine de passion dans lequel j'évoluais. Et le plaisir, c'était lié au... Comment dire, la passion donnait du plaisir, c'était lié au domaine. Et le métier, c'était la motivation.
C'est passionnant parce qu'en fait, j'ai essayé de faire cet exercice pendant que vous parliez, de remplacer votre ex-métier, puisque là vous parliez du sport, par le métier manager. Et vous parlez de plaisir. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'un des... Et on va maintenant parler de votre nouveau métier, donc d'accompagner des managers. Est-ce que vous ne trouvez pas que beaucoup de managers oublient cette notion de plaisir ?
En fait, je pense qu'ils ne l'oublient pas. Je pense que soit ils ne l'ont carrément pas appris parce qu'on est dans une culture judéo-chrétienne où on nous a toujours dit qu'il fallait souffrir pour réussir. Et par là, on est passé par les fourches collines de l'école, de l'éducation, où on nous a beaucoup fait travailler sur nos faiblesses, nos points faibles, là où on n'était pas bon. Donc, la notion pour ceux qui se sont appropriés cette idée-là, la notion de plaisir n'est pas une notion qui peut exister. En fait, elle n'existe pas dans l'approche. Et la deuxième option, pour ceux qui se disent « non, mais quand même, c'est important de prendre du plaisir dans ce qu'on fait », eh bien, ils ne savent pas forcément comment faire pour prendre du plaisir ou trouver du plaisir à faire ce qu'ils font.
Et quels sont les conseils que vous leur donnez, justement ?
En fait, comme je disais, on a un peu cette éducation où il faut souffrir pour réussir. J'ai envie de dire que bien souvent, quand on est dans cette logique-là, on est plutôt à se dire, OK, je peux pas faire, c'est pas en faisant ce que j'aime que je vais réussir. Entre guillemets, ce que j'entends par là, c'est en exploitant les talents, en faisant les choses pour lesquelles je suis talentueux. C'est en corrigeant mes faiblesses que je vais compenser en fait mes manques et du coup que je vais potentiellement arriver à me, comment dire, à être un peu, à peu près au niveau. Voyez, et donc en fait, quand on est exigeant, parce que du coup on met une exigence là où on n'est pas bon, on prend pas de plaisir à faire ce qu'on fait. C'est là qu'on rentre en effort, voire qu'on est en souffrance. Et du coup, on perd de cette notion de plaisir. Par contre, si on est exigeant sur ses forces, en identifiant bien quels sont ses talents, les talents qu'on a au fond de nous, et comment ces talents on peut les traduire en points forts dans des métiers, et ben à ce moment-là, en étant exigeant sur les points forts, on va tirer tout le système vers le haut. Voyez, je donne un exemple très simple. Moi, en ski, ma personnalité, on va dire, je suis plutôt quelqu'un d'instinctif, d'intuitif. Donc, grosso modo, quand je skie sans réfléchir, parce que j'aime bien être dans l'instinct. Vous voyez, j'aime bien faire appel à mon instinct. Je m'éclate à faire ça. Et mon point fort en ski de boss, c'est grâce à cet instinct, je skie plus vite que les autres. D'accord ? Cette force, elle a aussi ses faiblesses, c'est-à-dire que je fais des fautes techniques. D'accord ? Mais si je cherche à corriger mes fautes techniques en ralentissant, c'est-à-dire au détriment de mes points forts, eh ben, je vais souffrir. Par contre, si je cherche à aller plus vite pour finalement acquérir des points qui vont me permettre de compenser mes faiblesses, eh ben, je vais prendre du plaisir et là, je vais développer une vraie motivation à faire ce que je fais.
Et ensuite, il ne faut pas essayer de faire des choses qu'on ne maîtrise pas forcément, parce que Edgar, je vais vous avouer quelque chose, à cause de vous, je me suis pris un certain nombre de gadins sur les pistes de l'Alpe d'Huez en voulant faire comme vous. Donc, connaître ses limites, c'est pas mal aussi de temps en temps. Alors, Edgar, question, parce que je réalise en faisant cette interview que ça va faire 20 ans que vous avez fait votre première conférence. Et oui, déjà 20 ans. Est-ce que vous avez constaté une évolution dans les contacts que vous avez avec les managers par rapport à 2001 et aujourd'hui ?
Oui, des évolutions, il y en a régulièrement, je dirais tous les 5 ans. Parce que tous les 5 ans, il y a des nouvelles générations qui arrivent sur le métier. Et ce que je constate, c'est que les nouvelles générations, elles ont toujours les mêmes aspirations. Et je constate aussi que les managers qui managent ces nouvelles générations se disent « Ah là là, ça change, ils sont plus exigeants, ils ont plus ci, ils ont plus ça. » En fait, les nouvelles générations qui arrivent régulièrement sur le marché du travail, elles ont toujours les mêmes aspirations, mais encore plus fortes. C'est-à-dire que en 2001, les jeunes voulaient pouvoir réaliser de l'ambition, des ambitions, avoir des ambitions dans leur métier. Ils avaient des ambitions pour leur métier, ils voulaient pouvoir les réaliser. En 2021, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait du sens derrière ça. Et en 2010, la notion de sens commence à arriver. Donc, vous voyez, c'est toujours la même chose, mais c'est amplifié. Et c'est beaucoup plus, comment dire. Avant, on acceptait une autorité. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur d'accepter l'autorité. On a envie de travailler, on est plus dans l'horizontal que dans le vertical. On a envie de voir, on a envie d'être intrapreneur dans les boîtes. On a moins envie d'être un salarié qui vient, qui fait son job et qui repart. On a envie d'avoir des responsabilités. Vous voyez ? Mm-hmm. Donc, en fait, je trouve que le monde du travail évolue parce qu'il est fortement bousculé par les jeunes générations. Le monde du management est bousculé par les jeunes générations. Mais au fond, quand on regarde bien, leurs aspirations sont toujours les mêmes, peut-être exacerbées au fil du temps.
Et est-ce que vous ne trouvez pas que la pandémie a été un accélérateur incroyable de la tendance dont vous parlez ?
Ça, je le vois chez mes clients. C'est-à-dire que tout le monde me dit on a gagné 5, 6, 10 ans dans la digitalisation de nos métiers ou dans la version télétravail de nos activités. Donc, j'ai eu des clients qui m'expliquaient que du jour au lendemain, ils ont réussi à mettre 4000 personnes en télétravail, alors qu'avant, ils avaient déjà lancé les démarches pour que les gens puissent travailler 2 jours par semaine chez eux. Il y avait beaucoup de réticence. Et là, du jour au lendemain, c'est tout le monde, 100% des gens étaient 100% en télétravail. Donc, les résistances ont sauté chacun a son point de vue, mais les résistances ont lié parce que la pandémie, par rapport au confinement.
D'accord. Alors, en préparant cette interview, Edgar, j'ai réalisé qu'un sportif de haut niveau, pendant son action, donc pendant la compétition, est très solitaire. Vous, quand vous descendiez une piste, il n'y avait personne d'autre que vous sur une piste. Et je me disais que ce n'était pas le cas du manager, mais j'ai réfléchi. Et je me suis dit que face à la décision, le manager était tout seul. C'est lui qui devait trancher in fine. Alors, est-ce que selon vous, le manager, c'est un métier solitaire du fait de cette décision ou un métier profondément d'équipe ?
Manager, pour moi, c'est un métier qui est très solitaire. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, il y a cette notion de prendre des prises de décision où on doit être seul, où on est seul un peu à prendre des décisions, ce qui n'exclut pas le fait qu'on prenne des avis en amont pour pouvoir ensuite décider. Et les équipes ont besoin d'avoir des managers qui décident, d'avoir des caps, d'avoir des lignes, d'avoir une vision. Mais c'est aussi un métier où on est profondément seul quand, par exemple, on fait des entretiens individuels, quand on anime son équipe collectivement. À un moment donné, on est dans l'exercice pur du management, animer une équipe, faire des entretiens individuels, amener les gens à prendre conscience de leurs forces, comment s'améliorer. C'est un exercice qui se fait seul, mais il se fait seul au service des autres. Donc en fait, c'est aussi profondément collectif puisque ouais. C'est pas seul pour soi, c'est seul au profit des autres. Donc quelque part, il y a une forme de don de soi dans le management qui est quelque chose d'assez prégnant parce que les gens managent pour que les autres performent. Et c'est la performance sur le terrain des gens qui compte quelque part. Le manager est un manager qui est souvent quelqu'un de l'ombre qui va créer les conditions. Et c'est là que ça devient intéressant de voir quelle est la définition que chacun a de son rôle de manager. Souvent, moi, je dis, c'est quelqu'un, manager, c'est amener les gens à rendre les gens libres et autonomes dans leur métier, dans leur vie. Je trouve ça intéressant comme définition. Et je trouverais intéressant qu'un manager se pose la question de quelle est sa propre définition du management, parce que c'est ce qui va orienter, en fait, son style.
Oui, puisqu'il va lui permettre de mieux maîtriser ses talents et peut-être essayer de gommer ses défauts.
Oui, tout à fait. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire plus on optimise les talents, plus on gomme les défauts, en fait. On se distingue sur ses forces, et parce que quelqu'un a une véritable force, finalement, on lui pardonne ou ça gomme ses défauts. Alors, on accepte mieux ses défauts.
En préparant l'interview aussi, je je m'imaginais, parce que j'ai été sur un certain nombre de compétitions très proches des athlètes, notamment les X Games, toujours dans le ski, mais je me disais, la gestion du stress chez un athlète de haut niveau, il y a un vrai parallèle avec les managers sur la gestion du stress, et que certains managers, ne sachant pas gérer leur stress, bah, perdent leurs moyens, vont s'énerver. Est-ce que c'est un des points importants aussi dans le parallèle que vous faites entre le sportif de haut niveau et le manager, la gestion du stress?
Ben, en fait, la gestion du stress, elle intervient pour aussi bien un étudiant qu'un collaborateur, qu'un manager, qu'un sportif, qu'un acteur ou qu'un négociateur du raid ou qu'un militaire. La gestion du stress, de toute façon, c'est, comment dire, elle est toujours liée à un événement. Donc, on est tous, à un moment ou à un autre dans notre vie, confrontés à des événements forts ou à fort enjeu. Et donc, par rapport à cet événement, on a une forme de stress, de trac, de peur, on a des croyances, on a des certitudes aussi, on a des ambitions, on peut avoir il y a tout un tas de phénomènes qui fait qu'on se met une certaine pression, et cette pression fait émerger effectivement du stress. Donc oui, la gestion de ce stress doit être optimale, de sorte à ce que le stress soit à la fois stimulant, parce que la gestion du stress, le stress, c'est aussi un stimulant, jusqu'à un certain point. Arrive à un point où le stress devient inhibant. Et là, en fait, l'inhibition va pénaliser nos performances. Et du coup, tout le travail qu'on fait dans le sport pour bien gérer son stress, c'est de trouver son point haut. Vous voyez, c'est-à-dire le point où le stress est hyper stimulant, parce qu'on se dit qu'il nous garde à la fois, il nous fait nous lever le matin, il nous donne envie d'y aller, il nous fait être vigilant, mais il ne nous inhibe pas. Donc c'est le point haut qui fait qu'on va être dans ce que certains appellent le flow, c'est-à-dire un niveau de stress optimal qu'on arrive à gérer, c'est-à-dire dans lequel on arrive à rester dans le rationnel, à partir duquel, si on va trop loin, on bascule dans l'émotionnel, et là, ça devient pénalisant.
Est-ce que le stress, Edgar, c'est quelque chose que vous aviez forcément juste avant de vous lancer dans la piste, mais est-ce que c'est ça qui pouvait vous faire faire une erreur? Parce que stress de la faute, une fois dans la piste, c'est ça qui va faire qu'on perd la maîtrise.
Alors en fait, j'avais pas peur de faire des fautes, mais quand je faisais des fautes, ça pouvait me faire perdre après ma contenance. Et donc, c'est à partir du moment où une première faute peut en enchaîner une deuxième. Mmh. Et là, effectivement, c'est la spirale infernale qui va se mettre en branle. Donc, en fait, ou la machine qui va s'enrayer. Donc, en fait, il s'agit là encore, quand on est en action, d'arriver à comprendre que une erreur, quand on fait une erreur, voilà, on reste focalisé sur ce qui vient, sur on continue à développer son jeu, à développer à son rythme, et que l'erreur, arriver à la laisser derrière. Mais si on se laisse polluer par l'erreur, derrière, effectivement, on risque d'en générer d'autres. Et donc, c'est là que ça devient compliqué.
C'est marrant parce que ce que vous dites, ça me fait penser aux joueurs de jazz qui expliquent que quand ils font une fausse note, il y a deux types de pianistes, ceux qui vont s'arrêter et être tout rouge sur la scène, et ceux qui vont utiliser cette erreur pour créer quelque chose d'autre. Donc, l'improvisation de jazz a quelque chose de commun avec le sport. C'est fou quand même.
L'improvisation tout court, en fait, a quelque chose de commun avec le sport et la vie, même les conférences. Et c'est ça qui est intéressant. Et vous savez, moi, j'ai fait un sport au début de l'ère de ce sport, quand il a été inventé. Et je trouve que quand je regarde des images des années 70, j'adore, c'est pour moi la plus belle période. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand un skieur tombait dans une piste de bosse, sa capacité à se relever, par exemple, le gars tombait vers l'avant, mais en fait, il rentrait la tête, il faisait une roulade et il arrivait à se remettre sur les pieds et il repartait en ski.
Complètement.
Et en fait, cette capacité à se remettre de la faute, de l'échec, de la chute, était pris en compte dans la note. Et à la fin, tu pouvais tomber, mais tu pouvais aussi gagner une course parce que justement, tu avais fait une recovery spectaculaire.
Génial, j'ignorais ça.
Et quand on regarde, en fait, si vous prenez le ski de boss dans les années 70, puis 80, puis 90, puis 2000, ben vous apercevez qu'en fait, la période la plus créative de ce sport, c'était dans les années 70. C'est intéressant, non?
C'est passionnant. Et je vais aller voir des images de ça, parce que j'ignorais complètement. Edgar, on arrive vers la fin de l'interview, mais il me reste une question un peu, allez, on va dire, tartignole. Voilà, un mot de vieux, ça, tartignole, lançons-nous. Est-ce que, selon vous, c'est plus simple d'être manager ou sportif de haut niveau? Au-delà, non, j'allais dire même au-delà de l'apprentissage, c'est pas vrai. Est-ce que c'est plus simple d'être manager ou sportif de haut niveau?
Alors, si je bascule votre question dans le monde du sport, c'est ce qui serait plus simple d'être athlète qu'entraîneur? Je dirais que c'est une question d'âge parce que vous êtes entraîneur souvent après avoir eu une expérience d'athlète et qu'en fait, la vie nous amène à faire, à expérimenter, à vivre des choses, à vouloir par exemple être athlète et à faire des choses. Et puis, arrive un moment dans la vie où votre motivation à être athlète et votre corps, votre physique ne vous permet plus forcément d'être très performant en tant qu'athlète. Mais vous avez une expérience, et cette expérience arrive à un moment dans la vie, justement, vous avez envie de la transmettre. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que ça peut être potentiellement l'un et l'autre. Et c'est vrai qu'il faut bien avoir à l'esprit que c'est deux métiers différents. C'est-à-dire qu'un bon athlète ne fera jamais forcément un bon coach, et qu'un bon coach peut ne pas absolument pas avoir, comment dire, gagner de Coupe du Monde ou avoir même pratiqué le sport pour être un bon coach, parce que faire et faire sont deux métiers totalement différents.
C'est vrai que c'est hyper intéressant votre comparatif, et je le dis très souvent, c'est arrêtons de nommer comme directeur commercial forcément le meilleur vendeur, parce que le meilleur directeur commercial ou directrice commerciale sera peut-être le pire vendeur, mais il saura coacher. J'avais jamais fait le parallèle avec les entraîneurs sportifs, et c'est très juste. Alors Edgar, je vous ai demandé de travailler un petit peu, comme pour tous mes invités, je vous ai demandé de choisir un mantra ou une citation préférée et de nous expliquer pourquoi. Avez-vous bien travaillé, Edgar?
Ma citation du mois, parce que j'ai une citation tous les mois.
Ah, je ne savais pas.
D'ailleurs, si, parce qu'en fait, j'ai une communauté et tous les mois, je leur envoie une newsletter et j'ai ma citation du mois. Et ce mois-ci, la citation que j'ai choisie, je l'adore, c'est une citation de Sénèque qui dit « C'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas faire les choses, c'est parce qu'on n'ose pas les faire que c'est difficile. » Et je trouve que cette citation, elle est vraiment intéressante parce qu'elle dit quelque part « N'ayez pas peur de vos peurs. » C'est-à-dire, 90% de vos peurs ne se réaliseront jamais. Du coup, osez faire les choses et vous verrez que par l'action, les choses qui peuvent paraître difficiles vont finalement simplifier. L'action, le progrès, l'amélioration vont faire en sorte que ce qui peut vous paraître difficile, voire impossible, finalement, quand on commence à mettre le doigt dans l'engrenage, parce qu'on ose prendre des décisions qui s'imposent, progressivement, on clarifie les choses, la situation, on progresse, on avance, et les choses deviennent possibles.
Merci pour ce choix, Edgar. Ça donne, j'allais dire, la patate. Je n'utilise que des expressions de vieux, moi, aujourd'hui. C'est horrible. Mille merci pour ce choix, et mille merci pour le temps que vous avez eu la gentillesse de m'accorder. Je pense que les auditeurs de Happy Work vont adorer vous écouter. Merci pour ce parallèle. Merci de nous avoir fait rêver quand vous étiez sportif et merci de nous inspirer maintenant que vous nous conseillez. Je vous souhaite une excellente journée, Edgar, et très bonne continuation. Au revoir, Edgar.
Au revoir et merci beaucoup.